dans les oreilles de un invité.
Je suis Mathieu Bogart.
Jane Birkin.
Romain Gavras.
Luigi Sakamoto.
Monster.
Dans les oreilles, une vie en musique.
Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Ça, c'est une bonne question.
There are many, many songs. Pour moi, c'est difficile d'expliquer.
Nova.
À chacun sa BO.
D'abord, on m'a forcé à aller à l'opéra.
Ça m'a vraiment fasciné.
Le blues et le reggae.
C'était super bien.
Parce que la musique, c'est le plus profond langage humain.
Nova vous plonge dans les oreilles de...
Mid.
Je m'appelle Mid. On m'a appelé Quentin, mais il n'y a que ma mère qui m'appelle Quentin, donc la plupart des gens m'appellent Mid. Je suis né près de Lille, dans une ville qui s'appelle Croix. Peu de souvenirs de ma naissance, mais assez vite dans la musique. Fan d'informatique, j'installe des programmes sur mon ordi, et ça ne me lâche plus jusqu'à aujourd'hui, je fais de la musique électronique.
Dans les oreilles de...
Mid, DJ et producteur qui nous a fait danser en équipe au sein de Club Cheval et en solo sur les labels Marbles, Bromance Records avant de rejoindre Headbangers. Là, sur Headbangers, il nous invite dans des croisières all inclusive avant de sortir Born a Loser. Avec Mid, nous avons été coloc puisque pendant deux semaines, au printemps 2021, il installait son studio ici à Radio Nova pour créer le premier morceau participatif au monde en compagnie des auditeurs. Loverini, c'est son petit nom. Depuis, Mid a repris le chemin des studios, le sien, dans lequel il compose actuellement son prochain disque et le nôtre de studio, le temps de remonter le fil de sa vie en musique et de nous offrir ses oreilles sur un plateau. Alors pour commencer cette immersion, quelle musique, Mid, vous traduirez le mieux?
Il y a un morceau, c'est le morceau qui m'a donné envie de faire de la musique et qui m'a transcendé quand j'étais, quand j'avais, ouais, là, 13-14 ans, c'était Praise You de Fatboy Slim, qui a un énorme hit, mais qui, pour moi, traduisait en fait toute la musique qui me touchait, c'est-à-dire à la fois elle était dansante, elle était pop. Elle faisait du sampling, comme j'étais fan de sampling et de tout ce qui collait à comment on prend un morceau pour en faire un autre, et comment un morceau peut être de la matière pour faire un autre morceau, encore plus intéressant que l'original. Donc ce morceau, vraiment, il m'a vraiment touché à tous les niveaux, et il m'a toujours hanté à chaque fois que je suis rentré dans n'importe quel studio de musique.
Thank you.
Dans les oreilles de
Mid.
Sur Nova, Fatboy Slim, le groupe emblématique de la scène Big Beat anglaise, formation de Norman Cook, ex-membre du collectif Beats International et plus tard de Freak Power, qui rencontrera un succès mondial, bien sûr, avec sa formation Fatboy Slim et notamment ce titre Praise You, sorti en 1999. Et c'est avec ce morceau que notre invité ce matin, le musicien et producteur Mid, a choisi d'ouvrir cette émission. Mid, qui nous attend au plus lointain de ses souvenirs.
Dieu, que cette fille prend des risques, amoureuse d'un égoïste, la au pied du pianiste. Elle fout toute sa vie en l'air, mais toute sa vie c'est pas grand chose. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire à part rêver seule dans son lit le soir entre ses draps roses. Elle est, elle est là, plus que tout elle est, c'est beau comme elle est. C'est fou comme elle est, c'est beau comme elle est.
Dans les oreilles.
Nova.
Dans les oreilles de
Mid.
1978, Los Angeles, le compositeur Michel Berger compose ce titre qui deviendra un grand classique de la chanson, la groupie du pianiste que l'on découvrira plus tard sur son disque Beau Séjour, sorti en 1980, un air repris et chanté à tue-tête depuis des décennies maintenant et qui se niche dans les souvenirs de notre invité ce matin, Mid.
Le plus lointain, je dirais que ça, ce serait peut-être la groupie du pianiste dans un mariage. Tu vois, quand t'as juste envie de dormir, que tes parents ont mis trois chaises de jardin à côté pour que tu puisses t'allonger et dormir, et qu'au fond, il y a genre, la résonance du DJing, ça doit être mon premier souvenir musical. Il n'y avait pas beaucoup de musique, mais il y avait un bruit assez particulier, c'est que mon père, il a toujours joué du clavier. Lui, il était pianiste de jazz en hobby. Jazz, blues, et il continue aujourd'hui à faire de la musique, on l'embrasse. Il joue dans un groupe de reprises de Tina Turner. Et mon père, en fait, jouait du clavier, mais avec un casque. Donc en fait, on entendait juste... Donc ça, j'ai vachement ce souvenir-là, en fait, et il y a un truc très, très boîte à rythme, tu vois, d'entendre ce son pendant des heures dans la chambre de lui qui joue. Mais il y avait, après, en musique, il y avait la radio, il y avait la télé, mais j'ai pas l'impression qu'il y avait une collection de disques qu'on écoutait et qu'on écoutait et qu'on réécoutait.
Et qu'est-ce qui sortait de la télé, de la radio quand t'étais enfant?
Waouh. Quand j'étais enfant, je me souviens plus. C'était les années 90. Mais ce qui a commencé à me marquer, c'est justement ces années, genre plutôt 10 ans plus tard, quand il y a ce melting pot de plein de musiques de tous les genres. Et je trouve qu'il y avait vraiment plein de styles différents dans le top charts, donc de ce qui passait à la radio, de ce qui passait à la télé. Il pouvait autant y avoir Britney Spears que Will Smith, que j'adorais. Et j'ai été très déçu le jour où j'ai découvert que toutes ces chansons étaient des reprises. Il y avait en même temps Armand Van Helden. Il y avait Fatboy Slim, il y avait des Chemical Brothers, il y avait Daft Punk évidemment. Donc il y avait à boire et à manger et il y avait de quoi s'inspirer à l'infini, quoi. Et ben la première qui me parle et qui me tue, c'est Harder, Better, Faster, Stronger de Daft Punk, que j'entends à la radio, sur Fun Radio, en voiture avec mon père. J'entends ce morceau, donc à l'époque j'ai 13 ans, et en fait c'est incroyable d'entendre ça. C'est-à-dire, encore une fois, les goûts que moi je commençais à avoir en perso tout seul et que je partageais pas du tout, ce qui est le propre de quand on est petit. En fait, on a une chaîne IFI dans sa chambre, on écoute des CD ou autres aujourd'hui. Mais en fait, là, pour la première fois, j'allume la radio, et une radio, une énorme radio, quoi. Et j'entends ce morceau qui est complètement déstructuré, complètement nouveau, et
musique.
J'ai jamais entendu ça de ma vie.
Dans les oreilles de...
Mid. Le premier disque que j'ai acheté, c'était un disque que j'avais... Donc j'ai acheté des CD de titres. J'avais une chaîne IFI dans ma chambre, j'ai acheté des CD de titres parce que c'était même avant le fait de pouvoir graver des CD, quoi. C'était à peu près en même temps. Et donc le premier CD, c'était Janet Jackson, Together Again, qui était sans le savoir peut-être le premier disque de house music que j'ai acheté.
Et alors, tu disais que ton père jouait dans des formations. Est-ce que c'est ça les premiers concerts auxquels tu sois allé ?
C'est pas impossible que ce soit les premiers concerts. Quand j'étais tout petit, bon, je dois l'avouer, j'étais allé au concert de Dorothée.
Vous avez appelé le bureau du bonheur, ne quittez pas.
On l'embrasse aussi. Elle écoute sur mon Radio Nova. Est-ce que ça m'a marqué ou pas ? J'avais acheté un poster au merch, je l'avais affiché dans ma chambre. Et il y a quand même un truc en termes de game, de chansons efficaces. Dorothée est quand même au top niveau.
Allô, allô, monsieur l'ordinateur, dites-moi, où est passé mon cœur ? Je vous appelle au bureau du bonheur, car je sors à l'instant du ministère des pleurs. Dites-moi.
Et ensuite, les premiers concerts où je suis allé, je pense que ça a dû être... Mon père, il m'emmenait dans des boîtes de jazz quand même, où on allait voir ses potes. Il y avait un pote barman qui me montrait comment il faisait des cocktails. Tu vois, l'ambiance enfant dans un bar de jazz, c'est assez mignon. Je suivais mes parents, mais c'était assez... On n'allait pas particulièrement dans des concerts, quoi.
Et toi, les premiers concerts auxquels tu sois allé, c'était quoi ?
Les premiers concerts où je suis allé, c'était en festival en fait. C'était le festival de Dour, mes gros souvenirs de concerts, parce qu'en fait, pour faire simple, ma mère me déposait là-bas en voiture, parce que c'était avant que j'aie mon permis, et elle a toujours décrit ça comme si on était dans Pinocchio, tu sais, quand tous les enfants y suivent et qui sont hypnotisés, c'était un peu ça, elle voyait son enfant qui suivait avec tout le monde. Et Dour, c'était dingue parce que c'était 4 jours de musique, d'une qualité excellente, dans des conditions géniales. Et il y a un truc hyper transgressif aussi, le fait de pas dormir pendant 4 jours, être toujours un peu bourré, rencontrer des gens, c'était incroyable.
Je suis DJ Shadow. It's an honor to be here tonight.
Je me demande s'il n'y avait pas DJ Shadow qui était là à une époque. Pas impossible que j'ai vu à l'époque Mister Oiseau aussi. Et il y avait aussi les premières fois où tu vas voir un DJ sans savoir qui c'est. Ce qui est aussi à tout un autre, une manière de faire qu'on t'explique pas en fait. D'aller voir quelqu'un juste pour cette énergie...
De club.
Ouais.
Et ça, c'est les premières expériences de club, tu dirais ? Ça s'est fait en festival ou...
J'en ai eu plusieurs des expériences de club, de justement comprendre qu'un DJ peut changer la manière d'écouter de la musique. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu une fois, mon frère m'emmène en boîte de nuit. Quand moi, je commençais déjà à mixer, moi, j'avais eu mes premières platines vers 14, 15, 16 ans, des platines vinyles. Et j'allais acheter des vinyles. Et assez marrant, en fait, à l'époque, je fais une petite digression parce qu'elle est assez fun. Mon père, pour mon anniversaire, pour mes 15 ans, il me dit, bah, j'ai une surprise. Moi, j'achetais toutes les semaines un vinyle et je le mixais avec celui que j'avais acheté la semaine d'avant. Quoi. Et donc, je m'entraînais sur cet enchaînement absolument pour qu'il soit parfait. Et un jour, il me dit, bon, bah, le boss du magasin de disques, j'ai un contact. Et en fait, pour ton anniversaire, t'es invité dans son studio. Donc, je suis allé le voir. Et en fait, ce mec, il avait fait un énorme hit qui s'appelait Madhouse. Like a Prayer, c'était une reprise de Madonna. En fait, c'était une sorte de bootleg de Madonna. C'est un projet qu'il avait créé de toutes pièces et qui était un énorme hit à l'époque. Donc moi, j'étais trop heureux d'aller dans le studio, qu'il y a un vrai DJ qui me parle, qui m'explique ses petits tricks. Je me souviens très bien, il m'a dit « Vas-y, prends les platines, enchaîne deux disques là, montre-moi ce que tu sais faire. » J'étais hyper impressionné. Déjà, quand j'étais dans ce truc de vouloir mixer absolument, mon grand frère m'avait emmené en club aussi, dans un club très mainstream. Mais c'était assez fou de voir aussi les DJ qui mixaient, regarder ce qu'ils enchaînaient, comment ils enchaînaient. Parce que, évidemment, les disques que j'avais achetés, qui étaient parfois des têtes de gondole, bah, je les réentendais. Je pense à Bob Sinclair de Beat Goes On. C'était un gros morceau de l'époque en club aussi. Je l'avais. Et j'avais vu ce DJ pour la première fois en club jouer The Beat Goes On aussi. Et je voyais que le DJ, ça paraît un détail, mais je voyais que le DJ, il le joue super vite, tu vois. Et je fais, mais attends, on a le droit de faire ça, on a le droit de mixer un morceau plus vite que sa vitesse, tu vois. De prendre une liberté artistique en tant que DJ. Bref, il y a tous ces petits éléments. Du coup, je vais à Dour, j'ai déjà vécu ce truc de DJing. Et il y a une autre anecdote sur le DJing. C'est qu'un jour, ma petite amie de l'époque, quelqu'un de sa famille, est DJ. Et pour mon anniv, il veut bien venir mixer, quoi. Ça veut dire que je peux avoir un vrai DJ pour mes 17 ans. Imagine, nous, on a tous 16-17 ans. Il y a un DJ qui vient. Et en fait, pour la première fois, il joue zéro morceau qu'on connaît. Et pourtant, il arrive à faire danser tout le monde. Et là, je fais, waouh, là, 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 il y a un truc. C'est au-delà de la musique qu'on choisit, la musique qu'on connaît. Il y a tout un univers où, en fait, en soirée, et tu peux découvrir de la musique, te laisser porter par la musique. Et ça va beaucoup plus loin que ça, quoi. C'est pour ça que je suis venu à ça, parce que Dour, c'était ça aussi. C'était le côté voyage musical, passer d'une scène à l'autre. Parce qu'il y avait, il y avait quelque chose à l'époque pour moi de très... fallait te connaître les noms. Là, il y avait un truc, aller au magasin de disques, chercher des trucs. Le vendeur te conseille des trucs que tu connais pas. Ensuite, tu vas en soirée, il y a des morceaux que tu connais pas. Il y a tout un... quelque chose, tu peux vibrer sur de la musique que tu ne connais pas et c'est assez excellent. We'll be right back.
Dans les oreilles. Dans les oreilles de...
Mid.
Pas besoin de connaître les morceaux pour danser Mid, partager ses premières expériences de club, de salle où l'on découvre que le DJ vous embarque parfois dans des voyages dont vous ne connaissez aucune destination. Pour l'illustrer, ce magnifique morceau du groupe Black Ivory, sorti en 79, la formation de Leroy Burgess, poids lourd de la scène disco de qualité, de celle qui a infusé la house music. C'était Mainline sur Nova, suite de notre immersion dans les oreilles du DJ producteur Mid, qui revient sur ses premières formations, ses expériences de DJ et partage avec nous les disques essentiels de sa vie.
Mid.
On l'a quitté sur une piste de danse et nous voilà dans une toute autre ambiance avec le compositeur américain Elliott Smith. C'était Son of Sam, extrait de son 5e album Figure 8, un disque beaucoup écouté par notre invité, le producteur et musicien Mid.
Bah alors ça n'a rien à voir avec ce qu'on raconte. C'est limite une autre personne qui répond, mais ça doit sûrement être Elliott Smith Figure 8. Qui était mon disque d'arrivée à Paris, en fait. Parce que du coup, j'ai déménagé à Paris en 2007. Et franchement, c'était pas la joie, parce que c'était une nouvelle ville, grande ville, un peu tout seul, tu vois. Enfin, j'étais avec mon frère en coloc, mais il y avait un truc un peu... je sais pas, rentrer dans le bain de la vraie vie, quoi. Et il y avait cet album que j'adorais... Il y a un truc pas loin de Michel Berger dans Figure 8, tu vois, dans le truc arrangement piano, guitare, il y a beaucoup d'instruments, c'est très généreux, un truc mélancolique mais très beau, et j'aimais vraiment beaucoup ce disque et je l'écoutais beaucoup.
On revient quelques années plus tôt, quand est-ce que tu as commencé la musique? Quel est ton premier instrument?
Mes débuts avec la musique, c'était mon instrument, c'était l'ordinateur. C'est-à-dire que j'avais téléchargé sur l'ordinateur, donc à l'époque dans les maisons, il y avait un ordinateur qui était l'ordinateur du salon. Assez vite, cet ordinateur est rapatrié dans ma chambre, parce qu'il n'y a que moi qui m'en sers. Et cet ordinateur, j'installe des logiciels de musique dessus au fur et à mesure d'écouter de la musique électronique pour comprendre comment ils font, ça m'intéresse. Et donc au fur et à mesure, je fais de la zik. Et un jour, j'achète un DVD, qui est un DVD de Fatboy Slim qui s'appelle Big Beach Boutique. Et c'est Fatboy Slim qui joue devant 200 000 personnes à Brighton sur la plage. Concert gratuit. Je le vois lui Je vois comment il mixe, je vois son énergie sur scène, je vois la réaction des gens. Parce que j'avais déjà vu des vidéos de gros DJ, mais il y avait un truc assez austère et pas très généreux dans leur attitude. Je pense à Carl Cox, etc. J'avais téléchargé plein de vidéos de Carl Cox. Et en fait, là, il y a un truc généreux, pop. Il arrive à mélanger ses morceaux, il arrive à mélanger des hits, mais aussi avec des morceaux de house. Et lui, son attitude, elle est excellente. C'est-à-dire, il est méga ouvert, il fait que se marrer. Et pour communiquer avec les 200 000 personnes, il y a des caméras qui sont braquées sur lui. En fait, il écrit sur ses disques des messages pour la foule. Et il les montre aux caméras. Et les gens réagissent par rapport à ça. Et c'est assez mortel. C'est assez... Et je vois ça. Et je me dis, bah en fait, il n'y a pas le choix. Il me faut des platines. Il faut que j'apprenne à mixer. The Brighton Bell. Preston Park. Rounder Records. The Bushes.
Donc là, t'as 14 ans et c'était suite à cette...
Ouais, c'est ça, exactement.
Ton premier DJ set, c'était où, tu te souviens ?
Bah, c'était bien... C'était pour mon frère, une soirée avec une soirée d'appart avec 5 personnes assises autour d'une table basse et moi qui mixe dans un coin, hein, c'est vraiment ça.
Et le vrai premier ?
Et le vrai premier, il y en a eu quelques-uns à Berlin parce que au fur et à mesure, j'avais un premier groupe à l'époque.
Qui s'appelait comment ?
Qui s'appelait Sexual Earthquake in Kobe. C'était un groupe d'électro-clash. Moi, je faisais clavier, boîte à rythme. Il y avait un chanteur et un bassiste. Et en fait, au fur et à mesure, je leur disais « Ah, vous êtes pas chaud qu'on demande si on va jouer là-bas, que je fasse un DJ set après. » Et donc, j'avais joué à Berlin. Mais un DJ set assez mémorable, c'était au Zorba, à Belleville. En fait, on avait été invité avec Can Blaster, avec qui après on a fait Club Cheval, à mixer aux Zorba. Et en fait, on s'était pas rendu compte du tout, parce qu'en fait, on était tellement concentrés sur la qualité du mix, et sur Platine, il y avait un truc de concentration, en fait, où nous, on était genre ultra geek, concentrés, on jouait peu en soirée, quoi. On avait que les yeux sur les platines, et à un moment, on lève les yeux, et on est dans une énorme soirée gay. Des gars torse nu, nous, à l'époque, donc on est jeunes, tu vois. Mais tu sais, c'est genre des gars torse nu, la teuf de fou, tu vois. Et... c'est bien, on a réussi à faire danser des gens, quoi. Et à tel point que, à la fin, un mec nous tend un papier. Et en fait, on s'est toujours souvenu de ce mot qui disait « Salut les gars, vous avez fait du bon petit son de bon petit con. Venez jouer à mon anniversaire la semaine prochaine dans un château. » Et il y avait son numéro de téléphone écrit en bas.
Le meilleur commentaire, quoi.
« Vous avez fait du bon petit son de bon petit con. » Malheureusement, on n'est pas allé jouer dans ce château, mais en tout cas, on aimait de plus en plus jouer et on commençait à comprendre comment on pouvait faire ça, quoi.
Nova dans les oreilles de
Mid.
Et alors, ton premier groupe, c'est ça, c'est Sexual Earthquake
In Kobe, ouais.
In Kobe, et ensuite c'est Club Cheval, juste après.
Exactement, et en fait la transition est assez douce parce que en fait Panteros 666 rejoint mon groupe Sexual Earthquake in Kobe en tant que batteur. Donc il y a Can Blaster, Panteros, Mid, et on rejoint Sam Tiba et on décide ensemble pour plein de raisons de monter ce groupe de musique électronique. Album de TTC, Bâtard Sensible, qui a changé ma vision de la musique complètement. En fait, c'est même pas moi qui l'ai choisi, et c'est ça la beauté de la vie. C'est à quelqu'un qui l'a volé pour moi, et qui l'a volé, Et en fait, le jour où il l'a volé, donc c'était le chanteur de mon premier groupe, qui s'appelait Charlie. Et Charlie vole Bâtard Sensible à la FNAC et se fait choper par les gens. Et dans ces cas-là, en fait, lui, il n'avait pas de thune sur lui. Et donc, en fait, il y a mon téléphone portable qui sonne. Et c'est lui qui m'appelle de chez les vigiles et qui dit « il faut que tu viennes payer le disque ». Et c'était Bâtard Sensible.
TTC dans le club, salope, à mettre la foule. Je suis guidé par ma taille, ici ça pue trop la choule. Donc ramène tes fesses et tes hanches, toi ma belle. Dépense 307 que je pense qu'à tes quêtes. Mais tes filles, tes copines font la gueule à la même. On peut partager, c'est pas affamé. Cuisinier est un homme bien de l'amour à donner. Si t'es pas moudré à mon plan, reste abonné.
Bâtard Sensible, excellent disque, hein, produit par Parawan. Et je pense que c'est ce qui met aussi un pied dans la scène parisienne. Parce qu'en fait, je deviens ultra fan de Parawan, ultra fan de TTC. Je suis beaucoup allé voir TTC en concert aussi quand j'étais encore à Lille. Je m'étais même fait passer pour un journaliste pour les interviewer. Je l'ai jamais raconté à Tequila Tex, ça. Mais, et en fait, et surtout, c'est que Tequila Tex, quand on est arrivé à Paris avec Club Cheval, en fait, est-ce que c'est parce que j'avais beaucoup écouté sa musique ou parce que juste on avait la même vision des choses, mais il nous a vachement introduit dans le milieu parisien, quoi. Il nous a présenté à beaucoup de gens, c'est lui qui nous a présenté à Jérémy Châtelain, qui lui nous a présenté à DJ Core, c'est lui qui m'a présenté à Parawan, avec qui on a collaboré plus tard, et avec qui j'ai signé mon premier disque aussi. Enfin, Tequila Tex, il a vraiment été notre noyau, notre première graine, d'où est sorti un arbre bien compliqué aujourd'hui, parce que c'était il y a longtemps, l'arbre a poussé. Mais il y avait TTC, ce disque en tout cas, il raconte quelque chose, bien sûr. Il y a en fait toute la beauté de la musique française, c'est-à-dire il y a les paroles qui sont excellentes, il y a la technicité pour le côté de Parawan qui est un virtuose des synthétiseurs et des boîtes à rythme et de la production, et il y a quelque chose de virtuose, c'est-à-dire on peut pas reproduire ce disque. Je suis sûr que même si lui devait le reproduire, je pense pas qu'il y arriverait, tellement c'est fin, tellement c'est précis. Et enfin il y a les émotions, c'est-à-dire que il y a à la fois Dans le club, qui est leur hit, qui est dansant, on peut pas résister. À la fois il y a des morceaux, on a envie de pleurer, qui sont genre hyper fins. Donc émotion, technicité, ce que ça raconte en termes de paroles. Franchement, on a le... Et tout ça hyper moderne. Donc en fait, on a la musique française, mais de l'époque, j'allais dire de 2023, mais je sais pas en quelle année il est sorti. Mais...
Dans les oreilles de...
Mid.
Alors avant de parler composition, de tes collaborations, notamment avec DJ Core, est-ce qu'on peut écouter un morceau dont tu es particulièrement content ?
Je pense qu'on pourrait écouter un des premiers disques que j'ai sorti en solo, qui s'appelle Ravière, et qui était un disque que j'ai sorti sur Marble, qui était le label de Parawan et de Surkin. Justement, il a une espèce d'identité, une identité un peu étrange, un beat assez... J'aime bien le côté la chance du débutant aussi, tu vois, parce que c'est ça la chance du débutant, en fait, c'est d'être complètement pas du tout dans l'attente de ce qu'on va donner, mais d'être dans un truc d'instant présent et d'émotion et de ah ouais, bah ça j'aime bien, vas-y, j'avance dans cette direction, et puis moi, bah c'est fini. Puis il y a un morceau, et puis c'est comme ça. Là où en fait l'âge fait que, ou l'expérience fait que tu commences à anticiper, ouais, peut-être que si je fais ça, en fait, ça va trop ressembler à ça, ou si je fais ça, en fait, bah, les gens vont pas danser dessus. Et le Ravière, il a un peu un truc, un peu n'importe quoi.
I got something and it was you. You got someone I don't know. I got something to recognize. Something, something I got in mind. I got something and it was you. You got someone I don't know. I got something to recognize. Something, something I got in mind. I got something and it was you. You got someone I don't know.
Oreilles de
Mid.
Et c'est Javier, extrait de son tout premier EP Octodip, que Mid, notre invité ce matin, a choisi d'écouter avec nous. Alors, retour dans les studios. Comment est-ce que tu composes? Est-ce que ta manière de composer, par exemple, a changé entre cette période, la période de ce titre Javier sorti en 2011, et aujourd'hui?
Pas tant, en fait, bizarrement. Sauf dans des périodes où je me suis trompé de chemin. Mais j'ai souvent été convaincu, alors j'ai jamais trouvé d'où ça venait, que l'accident était la première étincelle d'une bonne œuvre. Il y a toujours le fait d'une rencontre, de provoquer une rencontre bizarre qui fait que la personne vient, on commence à bosser, ça donne quelque chose, et ce quelque chose, ça donne un morceau ou un album ou un live, et que tous ces accidents soient surtout utilisés, enfin... Qu'on voit leur potentiel et qu'on est comme une graine, qu'on l'arrose et qu'on la laisse germer au maximum et qu'on en prenne soin, au lieu de se dire je veux un buisson de buis taillé parfaitement de 28 cm de haut et de 16 cm de large, comment je fais ?
Quand tu fais ton premier EP, justement, t'as pas d'idée en tête spécialement de qui tu t'entoures
Justement, c'est ça qui est marrant avec All Inclusive, c'est que quand on se met en studio, ça commence par moi avec un guitariste qui s'appelle Gerge, parce que je voulais absolument de la guitare, et on avance sur des démos. Ensuite, on demande à DJ Core d'écrire une mélodie de voix sur The Sun. Ça, c'est quand même... bien, et c'est ça que je voulais te ramener et que je vais te faire écouter, mais je vais le retrouver et on va pouvoir l'écouter, la top line de Core sur The Sun qui est mythique. Ensuite, je demande à ce guitariste, je lui dis, mais tu connais pas une chanteuse? Là, je veux pas aller voir les chanteuses françaises. J'étais un peu traumatisé avec Club Cheval des top liners et des gens qui couraient après Lille. Je lui dis, tu connais pas une chanteuse un peu indie de Lille et tout? Il me présente Anouk, qui après m'a rejoint dans mon groupe live sur scène, qui est génial, qui a une voix vraiment excellente. Et donc, en fait, cette équipe, c'est pas l'agence touriste, tu vois. C'est genre vraiment les pieds nickelés. Après, tout le monde est très fort dans son domaine, tu vois. C'est plus Mission Impossible. C'est vraiment Mission Impossible. Et en fait, ça donne... Je te parle de ce crew-là parce que c'est celui qui donne The Sun, par exemple. Mais comme quoi, cet accident d'avoir une top line d'un mec qui fait du rap et du R&B toute la journée sur des guitares folk avec un beat d'électro, c'est quelque chose d'improbable, mais c'est ça l'accident de...
Toi, quand t'as produit des morceaux... Bah, c'est avec lui que t'as produit des morceaux de rap. Mm-hmm. Tu composais de la même manière ou pas?
Ouais.
D'accord.
Ah ouais, mais il n'y a pas...
Il n'y a pas...
Il n'y a pas... Enfin, parlons du positif, mais du négatif aussi. C'est tous les moments où j'ai eu, comme je te disais, j'ai voulu faire l'arbre parfait, tu vois. C'est-à-dire de se dire de faire des hits. Faut faire des tubes, faut faire des morceaux calibrés, faut faire un truc comme ça. Il faut absolument que je me retrouve là. C'est les moments où, en fait, j'ai fait la musique. Il n'y a pas de morceaux où j'ai vraiment, que je n'aime pas, quoi, du moins dans ceux qui sont sortis. Mais c'est les moments où, en fait, je me suis perdu. Et je sais qu'avec Club Cheval, par exemple, à un moment, on a eu vraiment une envie de... C'est tout, de se dire, vas-y, on va faire des tubes. Il faut qu'on fasse des morceaux calibrés. Il faut que ces morceaux passent à la radio. Il faut que tel pays aime ce morceau. Alors qu'en fait, c'est pas comme ça que ça se passe.
Dans les oreilles.
Dans les oreilles.
Nova. Dans les oreilles de...
Mid.
Comment est-ce que t'aimes écouter la musique? Dans quelles conditions?
Avec mes écouteurs dans la rue, en fait. Ça, c'est soit là-dedans, soit en voiture. Mais il y a un truc de mouvement que j'aime bien, quoi. Il y a un truc un peu, justement, un peu cinématographique, quoi. D'avoir des choses qui se passent et que t'écoutes en même temps. Et je trouve que c'est aussi des moments où tu peux vraiment te concentrer sur la musique et la vivre à 100%. Là où j'ai du mal, malheureusement, aujourd'hui, à rester assis sur une chaise devant mes enceintes et ne rien faire. Mon album préféré de voiture, c'est Joris Vorn Future History. Joris Vorn, c'est un musicien électronique, nordique pour dire au nord de la France. Il n'est pas belge, il n'est pas d'Amsterdam, mais il est encore plus haut. Joris Vorn, cet album, il est vraiment incroyable, quoi. C'est un de mes albums préférés de musique électronique. C'est de la... une sorte de house survitaminé à 135 BPM, très rapide. Enfin, ça paraît pas très rapide aujourd'hui, mais assez rapide pour l'époque. Et c'est génial, quoi. C'est vraiment trop beau, très répétitif.
Et qu'est-ce que tu écoutes en ce moment?
En ce moment, qu'est-ce que j'ai écouté de sympa? Si, il y a un album qui m'a vraiment beaucoup touché l'année dernière, qui s'appelle l'album de Saya Gray. Saya Gray, qui est une excellente bassiste, guitariste, et qui a fait un album, pour moi, un des meilleurs albums de l'année dernière, dans justement le très ambitieux, beaucoup d'émotions, et techniquement qui est parfait, quoi. Autant en termes de production qu'en termes de justesse par rapport au goût, par rapport au mode. Il y a un truc genre pile à la mode, mais en même temps pas cliché, je sais pas, c'est super. Il y a l'album de l'album de Frank Dukes, qui est producteur, qui a produit pour, entre autres, énormément d'artistes américains. Et lui, pour le coup, pareil, il a fait un album de producteur, quoi. De, on dirait limite des boucles, des idées, des brouillons. Mais c'est vraiment excellent, quoi. C'est vraiment très, très intéressant. En fait, j'aime les albums et j'adore les albums quand ils sont un peu show-off. Je trouve ça assez cool. Show-off de producteur. Et c'est les deux dont je te parle, ils ont ce truc-là, quoi. On sent qu'il n'y a pas d'humilité en termes de production. Il y a un truc genre, je l'ai fait et en fait, je suis plus fort que vous et c'est comme ça.
Dans les oreilles. Nova. Dans les oreilles de...
Mid.
Et tu composes en ce moment ?
Justement, c'est ça qui est intéressant avec cet entretien, c'est que souvent on fait des entretiens quand on parle pendant la sortie d'un album, et là je commence un nouvel album.
Et donc t'as ça dans les oreilles en ce moment ?
Entre autres. Là je suis dans un moment d'inspiration, je suis en train de chercher des idées, je suis en train de réécouter des choses que j'aime beaucoup, je fais beaucoup de playlists, donc j'ai vraiment besoin d'écouter énormément de musique.
Et quel est le dernier morceau que t'as écouté avant de venir ?
Bah, c'est une nouveauté, hein. Mais je l'ai eu grâce à une playlist. C'est le Lil Silva et Bad Bad Not Good, To The Floor. Assez bizarre parce que je me disais, est-ce que c'est un vieux morceau ? Est-ce que c'est un morceau récent ? Parce qu'il a tout d'un vieux morceau et d'un nouveau morceau en même temps. Ce qui est assez la force de Bad Bad Not Good, d'être assez moderne dans leur genre, mais il m'a bien plu. Deux que j'aime vraiment bien. Il y avait le dernier album de Hubert Lenoir que j'aimais vraiment bien et assez vite en fait quand on a bossé un petit peu ensemble et ça me plaisait bien de faire écouter sa musique, de transmettre le truc et de montrer qu'il y avait ce mec, lui aussi il est très show off en production parce qu'il est très fort et du coup, ça me plaisait bien de transmettre ça dans le même, je veux dire dans le même genre. Ça va pas, je sais même pas s'ils sont amis ou pas, mais il est aussi de là-bas. Un artiste assez excellent qui s'appelle Petit Beliveau. En fait, il fait des espèces d'albums de country avec un accent énorme québécois, mais à la fois il a l'air jeune et moderne. Donc, j'ai pas bien compris s'il nous faisait une blague ou pas, mais j'espère qu'il m'expliquera un jour.
Tout le monde para sur. Oh, ça me tordure d'être comme eux autres.
Et enfin, dernière question. C'est quoi la musique pour toi ? Qu'est-ce que ça représente pour toi ?
Pour moi, c'est le truc le plus important de ma vie, avant n'importe quoi d'autre, quoi. Il y a pas plus, et c'est une manière de transmettre des émotions plutôt facile au final, parce que on a tous des oreilles, et vu que les oreilles c'est le seul organe qu'on peut pas fermer, bah franchement, on est bien obligé d'écouter et de subir ou d'apprécier. Donc, moyen de transmettre des émotions très rapidement, très facilement. 420 mètres secondes.
Merci Hamid pour cette précision finale et pour cette heure passée en sa compagnie qui vous aura donné envie, je l'espère, d'agrandir votre discothèque. Merci à Mathieu Boudon pour la réalisation de cette émission qui, je vous le rappelle, est d'ores et déjà disponible en podcast et en version augmentée, c'est-à-dire avec plus de musique et plus d'histoire autour de la musique. Une version podcast disponible sur toutes les plateformes. Quant à moi, vous le savez, eh bien, je vous donne rendez-vous dans quelques minutes côté Grand Mix de Radio Nova.
Nova.
Dans les oreilles de...
En fait, la musique, elle est essentielle pour une chose, c'est mettre dans un état émotionnel.
Dans les oreilles.
La musique, c'est des sons organisés, c'est des respirations.
La musique, c'est le lien entre le matériel et l'immatériel.
Nova. Retrouvez Dans les oreilles 2 et sa playlist sur nova.fr.